Alors ce soir, toujours dans l'orbite de la musique dite progressive, on va explorer son versant sombre, à l'origine des climats tourmentés de ce qu'on a appelé l'après-punk. enregistré voici une quarantaine d'années déjà, un titre instrumental de plus de 6 minutes, froid et bouillonnant comme le mercure, signé par le groupe King Crimson. Il s'appelle Red, comme l'album auquel il a donné son nom, sorti fin 1974. C'est un enregistrement qui a mis un terme à la première carrière de King Crimson, qui d'ailleurs au moment de sa sortie n'existait même plus. La pochette de l'album Red ne ressemble déjà en rien à ce qu'on pourrait attendre d'un album de musique progressive. On n'y voit ni, un monstre de science-fiction aux effrayants tentacules, ni un paysage onirique semblable à ceux qui ornaient les pochettes des albums du groupe Yes, hein, qui était signé de l'illustrateur vedette Roger Dean, ni encore un signal chimique, hein, comme c'était la mode en ce temps-là. Non, c'est un portrait serré, austère, sorte de clair-obscur en noir et blanc, des trois musiciens du groupe qui ont l'air de toiser l'auditeur d'un air narquois. Le guitariste Robert Fripp, hein, le fondateur de King Crimson, s'est coupé ses cheveux frisés noirs et avec ses petites lunettes cerclées de métal, il ressemble à un intellectuel bolchevique des années 1900. Le bassiste et chanteur John Wetton, qui est passé par les groupes Uriah Heep et Family, a un air goguenard. Et le batteur et percussionniste Bill Bruford n'a pas l'air de vouloir du tout plaisanter. Ces deux-là forme une rythmique d'une rare intensité. Du jazz est là le dynamisme et la polyrythmie, et du hard rock, la brutalité froide et concise. Et au verso de la pochette, on voit l'aiguille du potentiomètre de la console d'enregistrement fixée dans le rouge, hein, ce qui indique une saturation du signal, ce qui est en principe à proscrire quand on enregistre. D'où le titre de l'album Red, rouge. Alors c'est un genre d'image qui correspondrait davantage, à un album d'Iggy Pop comme Raw Power, et pourtant non, il s'agit de King Crimson. C'est le signe que fin 74, le climat a complètement changé. Alors je vous le disais, à la publication de cet album, Red, le groupe King Crimson n'existe plus et en conséquence, aucune tournée n'accompagnera le lancement de ce disque. En effet, de façon tout à fait abrupte, Robert Fripp, en proie à une crise mystique, a prononcé la mort définitive de son groupe. Alors, il ne sait pas, bien sûr, qu'il reviendra sur sa décision, mais en fait, il a reçu une sorte de révélation. Selon lui, l'ère des groupes, entre guillemets, dinosaures, hein, c'est son expression, est révolue. Il est temps pour lui, là encore, je cite ses propos d'il y a 42 ans, de se transformer en, entre guillemets, une petite unité mobile et intelligente. Alors, un an après, d'ailleurs, suivant son exemple, Peter Gabriel va quitter le groupe Genesis pour inventer lui aussi une toute autre musique sans costume ni théâtre. Et puis, un an plus tard encore, le mouvement punk va débarquer de New York à Londres et dans les pubs où jouent les premiers groupes punk à Londres, il n'y a plus de séparation entre les musiciens et le public, il n'y a plus de stars. Un exemple, au début des Sex Pistols, Johnny Rotten descend tranquillement dans la salle, il s'assoit à une table et il boit une bière pendant que son groupe joue. Vous imaginez ça avec Pink Floyd ou Led Zeppelin ? Eh ben non. Et déjà, Robert Fripp l'anticipe. Il décide de tout arrêter et de ne donner non plus des concerts, mais des espèces de démonstrations comme ça, proches du public. Alors il débarque ainsi dans les magasins de disques avec sa guitare électrique, ses pédales d'effet, son petit ampli. Il s'assoit sur un pliant dans son costume noir de clergyman et il joue. Il improvise. Alors je me rappelle avoir assisté à l'une de ses démonstrations. C'était dans un magasin qui s'appelait Music Box à Paris, rue Saint-Sulpice, c'était sans doute en 77. Alors entouré d'un public très intimidé, c'était quand même l'homme qui avait fondé King Crimson, enfin il était là, on aurait pu le toucher. Eh bien Robert Fripp improvise. Et quand il s'arrête, il y a des gens qui applaudissent. Alors lui, il réagit avec un petit air narquois et gêné, il dit « Oh là là, franchement, c'est vraiment pas la peine ». En tout cas, Red, l'ultime album de King Crimson, sorti fin 1974, et surtout ce morceau-titre, a profondément marqué un courant très éloigné en apparence de la musique dite progressive. Et au hasard, Kurt Cobain, un jeune fan de hard rock à la fin des années 70, a notamment cité Red de King Crimson comme un de ses titres préférés. Alors oui, le premier punk rock, celui de The Clash notamment, qui se réclamait d'un retour aux sources, d'un rock'n'roll viscéral et primitif, s'opposait violemment à la musique progressive. Pour autant, c'est pas le cas des groupes de l'après-punk qui avaient tous été formés à l'écoute de groupes comme King Crimson. Mais il n'y avait pas que à Londres que ça se passait, il y avait aussi la France et l'Allemagne. Témoin, ce titre de 76, signé du groupe français Magma, un phare de la musique progressive dans le monde, un groupe qui a suscité une forme de dévotion incroyable dans les années 70 autour de son leader visionnaire, le batteur et chanteur Christian Vander, qui était allé jusqu'à inventer une langue imaginaire, le cobayen, né sur la planète Cobaya. Le titre instrumental s'appelle De Futura et il est tiré d'un album de 76 de Magma intitulé Udu Vudu, et on n'est pas loin, vous allez l'entendre, des ambiances angoissantes de l'après-punk. «
Mishka Assayas sur France Inter.
Un instrumental intitulé Zooper, c'était le duo allemand Neu en 73, Neu, N-E-U, bah comme nouveau en allemand. C'est un duo qui s'était formé 2 ans auparavant dans la grande ville rhénane de Düsseldorf et sa durée de vie n'a pas été longue puisqu'il s'est éteint en 75. Alors Neu n'a pas eu beaucoup d'écho de son vivant en dehors des frontières de ce qui était alors l'Allemagne fédérale à l'ouest, hein, malgré le soutien de l'anglais John Peel, hein, qui défendait sur les ondes de la BBC les productions underground des plus avant-gardistes. Neu, à l'époque, c'était plus que nouveau. C'était révolutionnaire dans le contexte de la musique progressive allemande. Alors, cette musique était underground, c'est juste. Elle était néanmoins très suivie au-delà de ses frontières. Alors, pour simplifier, il y avait un fort courant qu'on désignait comme planant, hein, dans cette musique progressive allemande. Il y avait les groupes Amundul 2 et Ashra Temple, sans parler des pionniers de l'électronique, hein, Tangerine Dream et Popol Vuh, qui étaient défendus en France par des magazines comme Actuel et certains critiques de Best et Rock et Folk. Et c'est un courant qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé la musique New Age, hein, d'après le titre d'un album du groupe berlinois Ashra Temple sorti en 76 qui s'appelait New Age of Earth. Et puis au cœur de tout ça est née une autre veine bien plus froide, hivernale, parfois urbaine, qui dans certains cas s'est durcie et rythmée. Alors des groupes comme Can avaient déjà anticipé ça. Il y a eu aussi Cluster et Kraftwerk, hein, l'inventeur d'une variété 100% électronique, qui ont eu une influence déterminante dans ces années très ambiguës, hein, 75, 76, 77, sur le glissement de la musique progressive vers les rythmes martiaux et glacés de l'après-punk, hein, ce qui évoquait l'aliénation des grandes villes modernes. Et ce, en grande partie, grâce à l'anglais Brian Eno, qui a fait découvrir toute cette musique à David Bowie. C'est lui qui l'a entraîné à Berlin pour y enregistrer l'album Heroes, il y a 40 ans déjà, on y reviendra. En tout cas, le groupe qui avait le plus impressionné Ino dans ces années-là, c'était Neu, avec son batteur Klaus Dinger à la frappe d'une puissance métronomique presque inquiétante. Et quand on écoute le titre qui va suivre, extrait du deuxième album du groupe londonien Ultravox, avec son premier chanteur John Fox, hein, un album paru en 78 qui s'appelait Ha Ha Ha, on se dit que cette influence était presque inévitable sur une certaine famille de jeunes musiciens à la recherche d'un rock au langage nouveau.
We'll be right back.
La voix reconnaissable entre toutes sur Inter du londonien John Lydon au sein du groupe Public Image Limited, hein, dans cette chanson qui fut le premier 45 tours du groupe sorti en 1978. Un titre qui fut une sorte de manifeste où Lydon s'en prenait au rôle de pantin qu'il estimait avoir été le sien au sein des Sex Pistols. Alors il y a une chose intéressante à souligner, c'est que le guitariste Keith Levin, un des premiers fondateurs de The Clash, soit dit en passant, donc guitariste de Public Image Limited, avait été très marqué par la musique progressive, alors qu'il ne l'était pas en ce temps-là, mais enfin lui particulièrement puisqu'il avait travaillé comme technicien sur les tournées du groupe Yes, hein, qui était un des phares du genre. Et son jeu de guitare, loin d'avoir la complexité et les raffinements de ce style, n'en garde que les envolées stridentes réduites à des phrases hachées et répétitives. L'ambiance est froide et mécanique, hein, c'est difficile de lancer là-dessus, on peut que hocher la tête en rythme en prenant un air mauvais ou en brandissant le poing. Hein, beaucoup faisaient ça à l'époque. Et enfin, en tout cas, l'influence de la musique progressive, hein, simplifiée par une dureté martiale, était très marquée dans ces années-là, notamment sur ce titre de 1981, signé par le groupe Susie and the Banshees, qui était issu du même vivier punk londonien que les Sex Pistols et Public Image Limited. On l'entend dans le jeu du guitariste d'origine écossaise, hein, qui était un étudiant en Beaux-Arts, au nom difficile à prononcer, ça, à peu près John McGeoch, était écossais, ça s'écrit McGeoch, Geoch, je sais pas. Et le jeu exceptionnel de ce guitariste s'entend dans ce titre, où, que vous allez entendre, où il superpose des roulements subtils de guitare sèche, hein, proches de ceux de Steve Howe chez Yes, à ces phrases de guitare électrique qui résonnent d'un vibrato menaçant. Un des meilleurs titres de Susie and the Banshees en 1981, Spellbound, extrait de l'album Juju.
From the cradle bars comes a beckoning voice that sends you spinning. You have no choice. You hear laughter
The Light Pours Out of Me, c'était le groupe de Manchester Magazine en 1978, année de parution de son premier album Real Life Magazine, un des groupes, sinon celui qui a ouvert la voie à Joy Division. Son chanteur s'appelait Howard Devoto et les inflexions sardoniques de sa voix lui venaient clairement de Peter Hamill qui, au sein du groupe Vandergraaf Generator, on en a parlé hier, hein, fut un des phares de la jeune musique progressive au début des années 70. Peter Hamill d'ailleurs a aussi été une des grandes influences vocales de John Lydon, on l'a évoqué également hier sur Inter, tout comme d'ailleurs de David Bowie. Et oui, le groupe Magazine était composé de musiciens à la compétence, il faut le dire, bien au-dessus de celle du punk moyen de la période, une période où même quand on savait jouer, il fallait faire semblant de ne pas être trop bon, sans quoi on se faisait facilement dénigrer, voire parfois insulter. Enfin bon, ça faisait partie du jeu à l'époque. Et dans Magazine, on débutait des musiciens exceptionnels, le bassiste Barry Adamson, futur collaborateur de Nick Cave au sein des Bad Seeds, et puis auteur de son côté d'albums passionnants qui ont anticipé la vogue du trip-hop, le guitariste John McGee. On en a parlé, futur collaborateur de Susie and the Banshees, un groupe où il allait déployer toute sa finesse et son invention, on l'a entendu. Et puis il y avait un très bon organiste, à plus de 30 ans à l'époque, autant dire un vieillard, formé au Rhythm and Blues qui s'appelait Dave Formula. Magazine a été un passionnant chaînon manquant entre la musique progressive et le rock oppressant de l'après-punk, très marqué également par les rythmes lancinants et répétitifs du groupe allemand Can, dont beaucoup se sont revendiqués à l'époque, notamment le groupe londonien Wire dans son troisième album, le fascinant 154, 154, un des disques les plus éblouissants de l'année 79, à égalité avec Fear of Music des Talking Heads et Unknown Pleasures de Joy Division. Wire, Two People in a Room.
Two people in a room. Facial movement to be tried.
le groupe était facile à reconnaître, c'était Joy Division. Le titre n'est pourtant pas un de ceux qu'on diffuse le plus souvent à la radio, c'était Novelty. À l'origine, publié en face B du 45 tours Transmission, qui est sorti fin 79. Un titre très proche du style de Magazine, qui avait ouvert la voie à Joy Division. Et plus surprenant, hein, façon un peu de boucler la boucle, c'est que les 30 secondes d'intro évoquent un passage du Red de King Crimson. On retrouve une dernière fois le guitariste de ce groupe, Robert Fripp, dans un des titres les plus connus de David Bowie, un titre que Fripp a contribué à façonner. C'est celui qui a donné son titre à l'album que Bowie a enregistré en 77 à Berlin, Heroes, et dont les phrases de guitare répétitives et incisives donnent une ambiance à la fois exaltante et désespérée à ce titre. David Bowie, dont les albums de la période co-réalisés avec Tony Visconti et marqués par la collaboration de Brian Eno, ont profondément influencé Joy Division.
I won't be king.
Et oui, c'était David Bowie dans Heroes en 77. Et alors à ce sujet, Antoine Dabrowski, qui réalise l'émission, vient de me raconter une histoire amusante. C'est que Tony Visconti, qui a réalisé l'album, a raconté à Valli, dans une interview qu'il a faite il n'y a pas si longtemps, je crois, et bien que Bowie séchait sur les paroles du deuxième couplet de Heroes et que il a vu Tony Visconti qui embrassait sa fiancée devant le mur et ça lui a inspiré quelques vers, voilà, du dernier couplet. Voilà, bah je l'ignorais. Je remercie donc Antoine, bah, qui a jonglé avec son brio habituel entre magma et noise, c'est pas facile. Philippe Duclos qui était aux manettes, Romain Couturier à la discothèque de Radio France, Valérie Bourg et Zora Ben Smiley. Alors demain, eh bien, on va poursuivre notre exploration, voilà, des méandres de la musique progressive, et on va plutôt se concentrer sur, eh bien, les productions récentes, parce que c'est un courant qui est toujours vivant. Et vous allez entendre des choses qui vont vous surprendre si vous croyez, voilà, si vous avez des préjugés par rapport à ce style musical.